On va d'abord, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer. On va d'abord faire le message, puis ensuite on fera les moments de prière. Et donc, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans Ésaïe, au chapitre 50. Ésaïe au chapitre 50. Donc on va étudier une portion de ce chapitre ce soir. Je vais d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte, cette méditation, ces prières. Seigneur, nous venons à toi avec tous les soucis et les préoccupations de la vie, aussi certainement les péchés que nous avons commis. Seigneur, nous venons devant toi et te demandons, Seigneur, de nous purifier de nos péchés, de nous laver, Seigneur, à nouveau de nos péchés par le sang de ton Fils. Et Seigneur, nous demandons aussi, Seigneur, de préparer nos cœurs maintenant à ce que nous puissions écouter ta parole et méditer et être renforcés, réconfortés. Prépare nos cœurs, Seigneur, aussi à te prier. Et Seigneur, veuille nous bénir aussi dans la communion fraternelle et que tout cela, Seigneur, soit opéré en nous par ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen. Donc, le passage que nous avons donc devant les yeux, le chapitre 50 d'Ésaïe, on va étudier les versets 10 et 11. On ne va pas étudier tout le chapitre, mais on va quand même le lire à partir du verset 4, parce qu'en fait, c'est important de mettre les passages dans les versets dans le contexte. Donc, Ésaïe 50, on va lire à partir du verset 4. Donc, ce chapitre, en fait, contient ce qu'on appelle un des cantiques du serviteur souffrant. Donc, il y a quatre cantiques du serviteur souffrant, donc, qui sont identifiés dans le livre d'Ésaïe. Et donc, ils se trouvent au chapitre 42, 49, 50, donc, ce qu'on a sous les yeux, et le fameux chapitre 53. Et donc, effectivement, la personne qui parle dans ces passages a été identifiée par le nom du serviteur souffrant et bien évidemment, ce sont des prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans le passage que nous allons lire maintenant, celui qui parle, eh bien, c'est Jésus, donc de façon prophétique, mais c'est Jésus qui parle. Donc, Ésaïe 50, verset 4, et on lit jusqu'au verset 11. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Donc on va regarder les versets 10 et 11 juste avant de... Pour ceux qui m'ont eu à l'esprit, j'ai eu un message du frère Albert qui vous salue tous, donc qui est en congé, donc je ne voulais pas l'oublier. Donc on va regarder particulièrement les versets 10 et 11. Donc le contexte de ce cantique, donc quelques mots d'abord sur le cantique du serviteur souffrant. Donc, on est dans Ésaïe 50, pour ceux qui viennent d'arriver, Ésaïe 50. Et donc, on étudie les versets 10 et 11. Mais donc, le contexte de ce cantique du serviteur souffrant, c'est celui de la passion du Christ. Hein? C'est la passion de Jésus et la confiance inébranlable qu'il met en Dieu dans cette épreuve. Il parle de son dos qui est livré au fouet de ceux qui lui arrachent la barbe, des ignominies et des crachats. Donc, ce sont toutes des choses qui lui sont arrivées. Nous le savons bien. Mais il proclame sa confiance en l'Éternel avec des expressions comme « Le Seigneur, l'Éternel m'a secouru » verset 7. « Celui qui me justifie est proche » au verset 8. « Le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Verset 9. Nous trouvons des échos donc très clairs d'ailleurs de ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un autre passage de la Bible, qui est Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Hein, c'est des échos similaires. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et dans le texte d'Ésaïe, nous avons des expressions comparables. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Qui me condamnera? On voit aussi au verset 4 et 5 deux choses sur le serviteur souffrant. Premièrement, il est docile à l'enseignement de Dieu. Donc on voit qu'il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Et on trouve cela dans le ministère de Jésus, pendant son ministère terrestre. Par exemple, en Jean 5, 19, il nous dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Ou encore en Jean 6, 38, « je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et deuxièmement, on voit également que grâce à cet enseignement, il peut secourir ceux qui sont abattus. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Maintenant, on va regarder nos deux versets. Et ils opposent en fait deux types de personnes. Donc au verset 10, ce sont ceux qui craignent l'Éternel et qui se confient en lui. Et au verset 11, ce sont ceux qui se confient en eux-mêmes. Donc c'est un peu ça, je pense, la clé de compréhension de ces versets. Il y a ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui se confient en eux-mêmes. Donc regardons le verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Donc on a ici des personnes qui craignent l'Éternel, mais ils marchent dans l'obscurité et ils manquent de lumière. Ce verset m'a frappé il y a plusieurs mois dans une prédication, et cela m'a mis à cœur d'étudier ce message et de partager ça avec vous aujourd'hui. Et combien cette situation est vraie? Beaucoup de chrétiens craignent sincèrement l'Éternel, mais ils ont l'impression de marcher dans l'obscurité. Et je pense que c'est même le témoignage de beaucoup de chrétiens la plus grande partie du temps, d'être dans cette situation de craindre l'Éternel et de marcher dans l'obscurité, de manquer de lumière. Et ces versets devraient nous encourager parce que la parole parle, je dirais, positivement des personnes qui sont dans cette situation et elle leur donne des exhortations, elle les encourage. Et c'est ce qu'on veut regarder ce soir. Je vais vous citer un passage que j'aime beaucoup, extrait d'un livre donc écrit par l'auteur chrétien anglais C.S. Lewis, donc ça, qui a été traduit en français par le titre « Les tactiques du diable ». Et le titre en anglais, c'est Screwtape Letters. Donc en fait, ce sont les lettres d'un démon en chef qui s'appelle Screwtape et qui écrit à un démon junior qui s'appelle Wormwood. Et en fait, il lui donne des conseils sur comment tenter les chrétiens. Donc le livre est assez rigolo, mais il est plein de visions très pleines de sagesse sur en fait la vie chrétienne. C'est un prétexte à nous donner des conseils à nous. Et donc, dites-vous que là, je vais vous lire un extrait, un petit peu long d'ailleurs, mais donc c'est là dans ce passage-là, Screwtape, le chef, explique à Wormwood comment Dieu peut retirer la sensation de sa présence à un chrétien pour le faire grandir. Comment Dieu peut retirer la sensation de sa présence à un chrétien, non pas pour lui faire du mal, mais pour le faire grandir. Et vous allez voir toute la sagesse de notre ami C.S. Lewis. Donc écoutez bien, il décrit donc cette situation. Au début, Dieu intervient. Il agit dans les chrétiens par une communication de sa présence qui, bien que légère, leur semble grande et pleine d'une douce émotion, et les aide à dominer facilement sur la tentation. Mais Dieu ne permet pas à cela de durer trop longtemps. Tôt ou tard, il retire ses soutiens et ses incitations, si ce n'est réellement, du moins de la conscience qu'en a le chrétien. Il laisse la créature se tenir debout toute seule et réaliser avec sa seule volonté des devoirs chrétiens qui ont perdu tout leur attrait. C'est pendant ces périodes d'abattement, beaucoup plus que dans les périodes d'enthousiasme, que le chrétien grandit pour devenir la sorte de créature que Dieu veut qu'il soit. Ainsi, les prières qu'il offre dans cet état de sécheresse sont celles qui plaisent le plus à Dieu. Dieu veut qu'il apprenne à marcher, et par conséquent, il faut qu'il retire sa main. Et même si le chrétien n'a que la volonté de marcher, Dieu est satisfait, même de ses faux pas. Fais bien attention, Wormwood. Notre cause, donc là il parle de la cause des démons, notre cause n'est jamais autant en danger que quand un humain, n'ayant plus le désir, mais ayant toujours l'intention de faire la volonté de Dieu, porte ses regards autour de lui-même sur un univers où toute trace de Dieu semble avoir disparu, se demande pourquoi il a été abandonné, mais continue à obéir. Donc je trouve que c'est une très belle description. Il a bien saisi, C.S. Lewis, la psychologie du chrétien. Et en fait, il y a de nombreux passages, j'ai réfléchi à ça, il y a de nombreux passages de la Bible qui mettent en scène des chrétiens dans cette situation. Et en fait, il y en a plus qu'on imagine, même, je dirais, où il leur semble que Dieu les a abandonnés et ils ont l'impression de marcher dans l'obscurité. Mais ils se confient en lui. On va regarder plusieurs. Si vous voulez d'abord ouvrir vos Bibles, dans Deutéronome, chapitre 8. Donc on veut surtout se concentrer là maintenant sur finalement cette partie du verset « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Je ne vais pas beaucoup développer, je dirais malheureusement, la partie d'avant où il dit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, qui mériterait en soi, je dirais tout un sermon, écouter la voix de Jésus. » Mais là on regarde particulièrement « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Donc Deutéronome 8, verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. » Donc, la première génération d'Israélites, après la sortie d'Égypte, elle s'était rebellée contre Dieu et elle avait reçu comme châtiment de mourir au désert. Mais le discours de Moïse, maintenant, en Deutéronome, il n'est pas à cette première génération parce qu'ils sont morts. Il est à la deuxième génération qui, elle, va pouvoir entrer dans Canaan et qui s'est montrée plus fidèle que la première. Pourtant, elle est restée 40 longues années dans le désert. Et pour la première génération, c'était un châtiment pour son péché, mais pour la deuxième génération, c'est un test de sa foi. C'est un test de sa foi. Dieu voulait savoir quelles étaient les dispositions de son cœur et si elle garderait les commandements. Et cette génération, en fait, elle marchait dans l'obscurité, en quelque sorte. Et elle manquait de lumière. Et Dieu voulait savoir si elle se confierait dans le nom de l'Éternel et s'appuierait sur lui. En fait, elle marchait dans le désert. Donc Dieu peut nous amener dans une longue période, 40 années de désert, pour tester notre foi. C'est ce que je comprends de ce verset. Il a testé leur foi pendant ces 40 années. Ils étaient pour rien, bon. Ils étaient pécheurs comme les autres, mais enfin, ils n'étaient pas la génération qui avait refusé de rentrer en Canaan. C'était leurs enfants, mais ils ont été testés pendant 40 ans au désert pour tester leur foi. C'est long, 40 ans. Et donc, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. On a encore d'autres exemples dans la Bible. J'en ai sélectionné quelques-uns, donc de chrétiens soumis à l'obscurité et au manque de lumière. Ils se sentent abandonnés de Dieu, mais ils gardent confiance en lui. Par exemple, Job. Job qui fait entendre ses complaintes pendant tout le livre qui porte son nom, et Dieu reste silencieux jusqu'aux quelques derniers chapitres. Malgré sa perplexité et malgré son évaluation erronée de la situation, parce qu'en fait Job se trompe complètement sur ce qui se passe, il garde la confiance en Dieu au milieu de l'obscurité. Il y a un très beau verset qui est en anglais qui est traduit comme ceci, c'est 13-15, donc Job 13-15. La traduction anglaise, c'est « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. » Alors malheureusement, la version française, elle dit « Je n'ai plus d'espoir. » Mais bon, je préfère la version anglaise, qui est manière plus positive, où il dit « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. » Et on a un autre verset, là, qui est traduit pareil par tout le monde, qui est le 19, 25 à 27, que vous connaissez bien. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera, le dernier, sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Je le verrai, il me sera favorable. Donc on a Job qui est complètement désespéré dans une situation que, j'espère, nous ne connaîtrons jamais, en tout cas que probablement très peu d'entre nous ont connue. Et Job, il garde cette confiance dans le nom de l'Éternel au milieu de l'obscurité la plus profonde. Et il en a été récompensé, comme nous le savons, à la fin du livre. On a aussi un autre exemple, c'est pour ça que j'ai choisi le cantique tout à l'heure, c'est l'exemple du prophète Jérémie. Donc Jérémie, il a écrit le livre de Jérémie, puis le livre des Lamentations. Et donc ce livre de Lamentations raconte cette situation de dévastation complète de Jérusalem. Il est devant les ruines de Jérusalem, il est complètement découragé. Il a lui-même eu une vie qui était épouvantable. Il a été pendant de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années, il était prophète auprès d'un peuple qui l'a rejeté, qui a même plusieurs fois failli le tuer, qui l'a mis en prison. Donc il a toute raison d'être rempli d'amertume. Et d'ailleurs, il répand son cœur, donc dans Lamentation, il répand cette amertume. On le voit chapitre 3, verset 17, où il dit « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Verset 18, « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. On croira entendre Job, n'est-ce pas? Mais il se reprend, et voici ce qu'il dit quelques versets plus loin, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Vous voyez là, il dit, je veux espérer en lui. Tout à l'heure, il disait, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais il s'est repris, il veut espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, Job et Jérémie, on peut comprendre qu'ils éprouvaient de l'amertume et de la perplexité, vu ce qu'ils ont subi, mais ils ont gardé toute leur vie leur confiance en l'Éternel, malgré des choses terribles. On a aussi un très beau passage, si vous voulez bien regarder dans Michée. Je ne sais pas si c'est un passage que vous avez remarqué, Michée chapitre 7, verset 7. 7 à 9. Donc là, le contexte, c'est plutôt... Donc là, le prophète Michée, il parle en fait au nom de Jérusalem, mais il expose un principe général qu'on trouve également dans le livre des Lamentations, d'ailleurs. Et donc là, on a une personne qui souffre aux mains de Dieu à cause de la colère de Dieu contre son péché, non pas comme Job, qui lui n'était pas puni pour son péché. Là, c'est un châtiment de Dieu contre la personne qui parle à cause de son péché. Pour moi, donc chapitre 7, verset 7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Donc vous voyez, cette personne, c'est extraordinaire, parce qu'elle supporte la colère de l'Éternel, car elle a péché contre lui, elle le sait, mais elle garde malgré tout en lui sa confiance. On voit qu'elle est assise dans les ténèbres, au verset 8, comme dans notre texte d'Ésaïe 50, mais elle confesse avec force que l'Éternel sera sa lumière. Toujours le même verset. Donc c'est un très beau texte. Et même quand on a péché, et qu'à cause de ça, on subit le châtiment de l'Éternel, et on passe par une période de ténèbres, on doit garder en lui notre confiance, car il nous conduira à la lumière. Ça, c'est un texte qui montre que même quand on a péché, souvent quand on a péché, la première chose qu'on veut faire, c'est comme Adam et Ève, c'est s'échapper. Non, ce qu'il fait, il dit, j'ai péché contre lui, je supporterai sa colère, mais je garde ma confiance en lui. Je garde ma confiance en lui parce qu'il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. C'est important ça, même dans une situation où on se dit « oui, je souffre, mais je ne suis pas comme Job, parce que Job c'était quelqu'un de bien, mais pas moi », même dans cette situation-là, la parole nous dit « il faut quand même aller à l'Éternel et lui faire confiance, garder sa confiance en lui. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Mais l'exemple suprême de ce genre de situation n'est-il pas celui de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, bien évidemment. Les ténèbres, on parle de ténèbres, les ténèbres s'étaient littéralement abattues sur Golgotha, et le Seigneur sur la croix s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui de nous peut connaître, imaginer ce qu'il a vécu pendant ces moments où il portait nos péchés, quand il a été abandonné du Père, à cause de nos péchés? Toutefois, on a un aperçu de ses pensées dans le psaume 22. Et on voit d'ailleurs que, malgré ce sentiment d'abandon, il continue à prier dans le psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume de prière. Il dit, par exemple, il dit « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Et la fin du psaume 22 est pleine d'espérance. Et elle parle d'un futur glorieux, puisqu'il dit « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Donc dans ce récit de la Passion, on a une quintessence, un résumé une concentration, un paroxysme d'un homme de Dieu qui se sent abandonné par Dieu et qui malgré tout continue à, au milieu des ténèbres, à lui faire confiance. Jésus sur la croix, il a continué au milieu des ténèbres à faire confiance à Dieu. Il n'y a personne qui ait connu cet abandon plus que lui sur notre terre, dans l'histoire. Il n'y a personne qui ait moins mérité cet abandon que lui. Ésaïe 50 aussi nous éclaire sur son état d'esprit, parce qu'Ésaïe 50, c'est vraiment le contexte de la passion, les versets qu'on a lus, et on voit que sa foi est inébranlable. Il dit « L'Éternel m'a secouru, je sais que je ne serai pas confondu. L'Éternel me secourra, celui qui me justifie est proche. » Et juste après cette référence à la passion, Jésus, vient de parler de ça, c'est lui qui parle dans le chapitre 50, il dit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel, qui s'appuie sur son Dieu. » Et donc, quand on est dans cet état de découragement que décrit C.S. Lewis, on doit penser à l'exemple de Jésus quand il était sur la croix. Et aussi suivre son conseil, parce que c'est lui qui parle dans les versets 10 et 11, et il nous exhorte à nous confier dans le nom de l'Éternel. C'est vraiment important d'avoir ces versets-là qui nous disent que quand on est dans l'obscurité, quand on est dans les ténèbres, quelle qu'en soit la raison, soit parce que c'est à cause de notre péché, soit parce que c'est à cause de Satan, soit parce que on ne sait pas, on est dans cette obscurité, on se confie dans l'Éternel, on doit conserver sa confiance à l'Éternel. J'espère que nous nous rappellerons ça au moment de l'épreuve. Maintenant, verset 11. Donc verset 11, je vais être plus rapide sur le verset 11. Le verset 11, il y a donc l'autre groupe de personnes. Et donc je lis le verset 11. Hein. « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Donc là, ces personnes, elles ont un point commun avec les personnes du verset 10, c'est qu'elles sont dans l'obscurité. Elles manquent de lumière. Mais c'est le seul point commun. Elles y répondent différemment. Elles ne se confient pas dans le nom de l'Éternel. Elles se confectionnent des torches et elles les allument. Donc ce sont des gens qui ont recours à leurs propres moyens. Pour elles, le ciel est vide, il n'y a pas de Dieu vers lequel se tourner. Les problèmes, elles décident de les résoudre elles-mêmes. C'est exactement ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, et tout le temps d'ailleurs. Dans la crise actuelle, est-ce que vous avez entendu un dirigeant qui dise « Nous avons péché contre Dieu, repentons-nous en prenant le sac et la cendre et demandons-lui de nous éclairer. » C'est sûr que si on entendait ça à la télévision, on n'en reviendrait pas. Pourtant, c'est ce qu'il devrait faire, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait le roi de Ninive lorsque Jonas est venu. Mais c'est complètement sorti de l'imagination des gens. Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Mais le monde s'est pris en main lui-même, il veut résoudre ses problèmes tout seul. Pour eux, le ciel est vide. Ils vont certainement pas se tourner vers Dieu pour quelques conseils, quelques sagesses. Et je dirais que c'est pour ça que nous devons d'autant plus prier pour nos dirigeants, parce qu'ils en ont vraiment besoin. En particulier dans les moments actuels ou dans tous les moments de crise, nous devons prier pour nos dirigeants, parce qu'eux ne prieront pas eux-mêmes. Mais nous devons prier le Seigneur qui leur donne la sagesse. Dans la petite série que j'ai faite, peut-être certains d'entre vous l'ont écouté sur Facebook, sur les venez à moi de la Bible, on a vu les pharisiens qui étudiaient les Écritures, parce qu'ils pensaient avoir en elles la vie éternelle, mais ils ne voyaient pas qu'elles rendaient témoignage à Jésus, ils refusaient d'aller à Jésus pour avoir la vie. Et 2 Corinthiens 3,14 nous donne l'explication de leur comportement. Paul dit « Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. » Donc ce sont des gens qui sont en fait dans l'obscurité, qui sont dans les ténèbres. Et Christ a cette phrase terrible, les concernant, je pense, il dit « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Ces hommes avaient allumé leur propre feu, ils avaient allumé leur propre torche, ils voulaient interpréter la loi à leur façon, et ils avaient refusé la lumière de Jésus. Et donc le texte conclut en nous donnant la conséquence terrible de ce refus de se confier dans l'Éternel. Ce feu que les hommes ont allumé pour eux-mêmes, pour s'éclairer, va devenir leur propre condamnation. On a l'impression qu'ils sont jetés au milieu de leur propre feu. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Ils vont être engloutis dans leur propre feu, dans le feu qu'ils ont allumé. Le texte dit qu'ils se coucheront dans la douleur. La traduction Osterwald dit « Vous serez gisants dans les tourments ». Et nous voyons que cela vient de Jésus, parce que c'est toujours Jésus qui parle. Il dit, c'est par ma main que ces choses arriveront. Donc c'est lui qui, à la fin des temps, va les juger. Il précipitera les pécheurs qui l'ont rejeté et qui sont confiés en eux-mêmes et les précipitera dans les flammes éternelles. Donc, j'en arrive à la conclusion de ce court message. Quiconque marche dans l'obscurité manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Et je crois que très souvent les chrétiens n'osent pas s'avouer qu'ils sont découragés. Souvent ils sont comme le décrit C.S. Lewis, ils n'ont plus le désir, ils ont toujours l'intention, mais ils n'ont plus le désir de faire la volonté de Dieu. Ils portent les regards autour d'eux-mêmes, sur un univers où toute trace de Dieu semble avoir disparu. Ils se demandent pourquoi ils ont été abandonnés, mais ils continuent à obéir. Si c'est quelque chose qui décrit votre état d'esprit, alors ces paroles sont pour vous. On a vu quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, dans les psaumes notamment, qui décrivent des chrétiens qui sont perplexes, troublés. Ils ont l'impression d'être dans l'obscurité. Souvent ils font bonne figure à l'église, mais ils ont le cœur lourd et découragé. Ils veulent continuer à avancer, mais ils se demandent vers quoi. Ils ont l'impression de ne pas faire de progrès, ils sont de plus en plus conscients de leurs péchés. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Mais ce texte nous dit que ce n'est pas le moment de prendre les choses en main, de retourner vers les méthodes du monde, comme voulaient faire les gens dans le désert. Parce que ça, c'est le chemin qui mène à la perdition. Et la fin de ce chemin, c'est de gisser dans les tourments. La bonne réponse, c'est confie-toi dans le nom de l'Éternel et appuie-toi sur ton Dieu. Même si tu es dans l'obscurité, même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le ressens pas, il faut se confier dans l'Éternel. Et comme Christ au pire moment sur Golgotha, il faut se dire avec confiance, voici, l'Éternel me secourra. Je suis sûr que c'est ce que Jésus s'est dit sur la croix. Il s'est dit, voici, l'Éternel me secourra. C'est ce qu'il a dit dans la parole. Prions. Seigneur, tu connais les cœurs de tout à chacun. Et tu sais combien ceux qui sont devant toi aujourd'hui, Seigneur, ressentent cet état d'esprit, cet état de découragement, cet état d'obscurité. Seigneur, nous voulons tellement te remercier que tu as pensé dans ta parole à nous encourager par ces versets, à nous dire que même quand nous sommes dans cet état-là, nous devons nous confier dans l'Éternel. Nous devons aussi écouter la voix de ton serviteur, Jésus-Christ. Seigneur, veuille appliquer ces pensées dans nos cœurs. Et peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'au moment de détresse, nous en aurons plus besoin, nous nous rappelions dans notre cœur que celui qui est dans l'obscurité, qu'il se confie dans l'Éternel. Je te prie ces choses, Seigneur, en saint nom de Jésus. Amen.